Ben, au début, moi, j'étais pas avec parce que elle faisait ses affaires à elle, quoi. Mmh. C'est... Et quand j'ai vu ça, j'y ai demandé, mais elle me voulait pas parce que j'étais une maman. Elle a pas compris qu'en fait, une maman qui sert à rien, c'est plus une maman, quoi. Mais quand on peut pas survenir aux besoins de nos enfants, je crois que c'est la chose la plus horrible qui peut arriver à un parent, quoi. Que ce soit maman ou papa, nos enfants, c'est la prunelle de nos yeux.
C'était hier chez Sonia De Villers, la véritable Hélène Trinidad, une des membres du gang des Amazones qui a défrayé la chronique policière au début des années 90. Un film sort demain sur leur histoire et avec nous cet après-midi, nous avons justement celle qui incarne à l'écran, Hélène Trinidad. Bonjour Isia Higelin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Zoom Zoom cet après-midi, chanteuse, compositrice, musicienne et donc actrice. On est très heureux de vous recevoir pour ce film, Le Gang des Amazones, le dernier film de Mélissa Drijard qui sort demain en salle. Film dans lequel vous tenez donc le rôle d'Hélène, une jeune mère de famille qui va se lancer dans une série de braquages. On est entre la fin des années 80 et le début des années 90. C'est une histoire vraie, celui du gang des Amazones, cinq femmes qui vont braquer des banques dans le sud de la France. Isia Higelin, vous qui êtes mère de famille, vous comprenez le basculement que raconte Hélène Trinidad quand une maman ne peut plus nourrir ses enfants. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'éthique qui tienne. On y va.
Oui, après, je n'ai jamais été à la place d'Hélène, donc je ne peux pas savoir et ce serait assez vulgaire de ma part d'imaginer une situation pareille, mais Hélène, comme je l'aime et que je la respecte et que c'est une femme extraordinaire, j'imagine qu'elle a fait le meilleur et qu'elle a fait ce que bon lui semblait, enfin ce qui semblait être bon, pardon. Et voilà, il faudrait suivre toute la vie d'Hélène par la suite pour voir à quel point cette femme est vouée corps et âme aux autres, donc je la crois.
Quand une mère de famille devient braqueuse de banque, Isia Higelin est notre invitée cet après-midi pour le film Le Gang des Amazones, qui a évidemment beaucoup plu et rappelé pas mal de souvenirs à Manon Mariani, la Calamity Jane de l'Est parisien,
au moins, ouais,
qui bénéficie, comme tout justiciable, d'un droit à l'oubli, même si les faits pour lesquels elle a été condamnée, tentative de vol de mobilier chez Habitat, sont suffisamment graves pour qu'on les rappelle ici, comme elle l'avait fait il y a quelques mois dans le podcast de Marie de Breuer.
J'aimerais trop arriver, tu vois, chez Ikea ou chez Habitat, et vraiment, tu prends un canapé et tu sors devant tout le monde. Genre, tu vois.
Ah ouais, mais non, mais les canapes, ils sont.
Ils sont attachés ?
Alors, heureusement, comme vous l'entendez,
le
cas était si mal préparé que la préméditation n'avait pas pu être retenue, hélas. Manon tomberait quelques années plus tard pour usurpation d'identité. Et là, on était partie civile. Elle nous avait dit qu'elle était actrice et qu'elle avait fait le cours Florent.
Peu cher, ô bonne mère.
Voilà, le mensonge n'avait pas résisté à l'épreuve des faits. Zoom, zoom, zen, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter l'actu sans oublier d'en rire, et en ce moment, on en a besoin, surtout Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, qui croyait enfin hier voir le bout du tunnel. Son idole, Nicolas Sarkozy, sortait enfin de prison. Après 20 jours d'ignominie, il retrouvait foi en sa France, comme il l'écrivait dans un texto bouleversant à son ami Pascal Praud, quand soudain, hier soir, le choc, la rechute. Avant de se coucher, alors qu'il venait d'enfiler son pyjama blanc du Nil, Cyril se balade sur le site du Figaro, parce que, je cite son cardiologue, c'est bon pour sa pression artérielle, quand tout à coup il tombe sur un article intitulé « Ségolène Royal, après la condamnation de Sarkozy, elle aurait aimé être élue a posteriori ». Fébrile, craignant de comprendre, il clique alors sur le lien vidéo.
« Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture ?»
Oui, après avoir regardé en entier, parce qu'il adore Franck Leboeuf, autant le footballeur que le comédien, la pub « Vendez votre voiture », enfin, l'interview de Ségolène arrive, et elle ne déçoit pas.
Il y a eu tricherie pendant cette campagne, et finalement, quand on regarde les choses, la meilleure sanction, ça aurait été quoi? Si ça avait été théoriquement possible, ça aurait été l'inversion des résultats, finalement, si je peux me permettre.
Tu ne te permets rien, tu vas d'abord m'effacer de ton CV chroniqueuse chez Hanouna et ensuite tu te permets fulminer Cyril devant son écran. Après ça, impossible de trouver le sommeil. Il a fallu que sa femme lui joue la Marseillaise au casou pour qu'enfin, vers 1h du mat, il puisse s'endormir du sommeil du juste.
France Inter. Zoom zoom zen.
Ça parle, casou.
Noël. Alors Isia Higelin, vous allez nous parler de votre rôle dans Le Gang des Amazones, juste le temps de vous présenter mon petit gang à moi. À vos côtés, la plus badass d'entre nous, ce qui n'est guère difficile, oui. Celle qui projetait de voler un canapé chez Ikea. Manon Mariani, Habitat et Ikea, vous disiez les deux. Manon Mariani, chaque après-midi, vous nous décryptez l'actu des réseaux sociaux au programme de votre veille sanitaire.
Qui est Rama Douaji, la femme du nouveau maire de New York, est devenue la coqueluche des réseaux sociaux, adulée par certains pour ses convictions et son look, très important, et critiquée par d'autres car elle représente disant tout ce qu'il déteste, portrait dans ma veille sanitaire.
Face à vous, Isia Higelin, si vous aimez la presse quotidienne régionale, les Côtes d'Armor et l'idée de vous faire enterrer dans votre propre jardin, alors il y a de fortes chances que sa chronique vous intéresse. Quentin, chaque après-midi, un article de la PQR qui a retenu votre attention.
Mais qu'est-ce que je dis moi maintenant?
Je ne sais pas.
Vous avez tout dit. Je vous emmène du côté de Saint-Brieuc où je m'interroge sur les sépultures privées. Qu'est-ce que ça raconte à notre époque? Je vous raconte tout ça à 17h30.
Mais surtout, j'espère que vous avez enquêté. Est-ce que c'est légal? Parce que je ne suis pas sûr.
Vous verrez. C'est réglementé en tout cas.
Côté humour, ne manquez pas vers la demi Marie Debreur qui cet après-midi, alors qu'elle est toujours en jet lag de LA après sa folle soirée de samedi, l'anniversaire de Kris Jenner, nous parlera du festival de la BD d'Angoulême qu'elle envisage de boycotter. Pourquoi? Est-ce vraiment très malin, sachant qu'elle a elle-même une BD à vendre, je le rappelle. Juste avant 18h, on retrouvera aujourd'hui Marion Mésadorian et puis évidemment... Sans sa chronique, l'émission n'a pas de sens, c'est le meilleur, je l'aime. Commenté Pascal Elbé sous sa dernière publication Instagram, une énorme île flottante qui aurait pu étouffer un ours, mais pas lui. Chaque après-midi, Cyril, vous nous livrez les trois infos qu'on aura hâte de raconter à la maison ce soir, au menu du Lacar News.
Trois personnages aujourd'hui, un joueur de foot portugais bientôt à la retraite, un héros signe de ralliement des antisystèmes bientôt en série, et un chanteur mexicain au succès éternel.
Le Lacar News, ce sera juste avant la demi, mais d'abord, Isia Higelin est avec nous pour le Gang des Amazones, le dernier film de Mélissa. Drijard. Isia, on le disait, le gang des Amazones a vraiment existé. Est-ce que vous, déjà, vous en aviez entendu parler, vous connaissiez l'histoire avant d'accepter le film ou de recevoir le scénario?
Non, jamais. J'ai découvert l'histoire avec le scénario de Mélissa Drijard.
Et alors, qu'est-ce qui vous a le plus donné envie de répondre favorablement à ce scénario qui est arrivé sur votre table de chevet?
Je trouvais le rôle d'Hélène vraiment formidable et sublime. Voilà, c'est cette mère prête à tout pour ses enfants, qui se laissent un peu embrigader dans ce braquage, parce qu'elle dit elle-même, voilà, c'est soit ça, soit faire la pute, et, et du coup, elle se lance là-dedans, et j'ai trouvé le rôle tellement juste, tout en nuance, ça m'a énormément plu d'incarner cette femme.
Oui, parce que ce qui est fou en regardant le film, c'est que bien que ça se passe à la fin des années 80, au début des années 90, c'est quand même une histoire qui évoque des enjeux très actuels. Si on parle du déterminisme social, d'inégalité, de misère sociale et affective, de maman solo, c'est aussi cet aspect très contemporain qui vous a plu dans ce personnage ?
Bah ouais, je pense que l'injustice qui habite les gens devient de plus en plus, était déjà absolument impossible à vivre à l'époque. Donc aujourd'hui, elle est toujours la manière dont sont traités les gens. Enfin voilà, pour de simples besoins vitaux, qui sont de survivre en fait. C'est ce que elle disait en fait. On ne survivait plus, on vivait en fait juste ça. Elle regardait plus le prix des étiquettes. Elles allaient pas flamber au casino, elles allaient faire leur course à Auchan. Enfin, c'était pas des malades.
Oui, parce que le point de départ, c'est aussi quelque chose que peuvent vivre des mamans encore aujourd'hui. Votre personnage reçoit une lettre de la CAF. Qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre?
Elle dit que j'ai reçu un trop perçu en fait et je dois rembourser en gros, mais elle dit mais c'est votre erreur et c'est moi qui paie. Alors après, je viens de recevoir un mail d'un parent d'élève qui travaille à la CAF et on partage une nounou pour aller chercher mon fils au violoncelle, qui m'a dit de ne pas trop taper sur la CAF. Donc
les jeunes vont sauter, oui, attention.
Je l'embrasse d'ailleurs, je ne sais pas comment il a eu mes coordonnées.
Oui, mais c'est quelque chose qui peut arriver, un trop
encore
perçu à la CAF,
mais bien sûr,
qui peut mettre vraiment quelqu'un dans l'embarras. J'imagine que ça parle évidemment.
Bah oui, oui, encore une fois, je saurais même pas comment, enfin, je ne saurais même pas imaginer comment je réagirais. Enfin, évidemment, Hélène, elle en parle très bien et c'est une injustice sans nom. C'est comme foutre du liquide vaisselle sur les poubelles en sortant des magasins, pour pas que les gens récupèrent la bouffe. Enfin voilà.
Là, Isia Higelin, c'est évidemment un rôle, vous êtes actrice, mais on sent que ça fait vibrer quelque chose chez vous, c'est-à-dire l'injustice sociale, les inégalités, la montée des inégalités ces dernières années, on sent que c'est quelque chose qui vous parle particulièrement.
Bah, bien sûr, comment ne pas être touchée par tout ça. Donc évidemment que de porter à l'écran cette histoire, ça me touche profondément. On essaye de dire que les films ne sont pas politiques pour que les gens aillent les voir, mais non, les films sont politiques.
Ils sont tous politiques, oui. 5 ballons... Alors, on continue, pardon. Ma transition était trop abrupte, je trouve. Alors, on la refait, comme on n'est quasiment pas en direct. On est dans Zoom Zoom Zen avec Isia Higelin cet après-midi pour le film Le Gang des Amazones, le dernier film de Mélissa Drijard. Zoom Zoom Zen continue avec, justement, cette info que j'allais vous donner. 5 ballons d'or et 667 millions de followers sur Instagram. En même temps, lui, c'est rare qu'il poste des photos d'îles flottantes. Cristiano Ronaldo vient d'annoncer qu'il disputerait sa dernière Coupe du Monde l'an prochain. Il aura les honneurs du Lacar News. Juste après, tiens donc, mais qui est cette chanteuse talentueuse?
Ah, elle est géniale, je l'adore.
Trop vite, vous connaissez? C'est génial, on écoute.
Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite. Passer du sais pas pourquoi tu pleures. T'as l'impression qu'on t'ignore. Quitter la fête avant la fin. Claquer la porte avec fracas. On ne s'inquiétera pas pour toi. Tu fais ça deux fois sur trois. Tes émotions qui montent trop vite. Les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey. Les sentiments passés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey. Tes émotions qui montent trop vite. Les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey. Les sentiments passés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Tu vas abîmer ton cœur. À trop vivre plus fort que tout. Hypersensible et sauvage. Dans ta tête comme dans une cage. T'as tellement besoin qu'on t'aime. Que t'oublies de t'aimer toi-même. T'aimer toi-même. Tes émotions qui montent trop vite. Les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey. Les sentiments glacés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey. Tes émotions qui montent trop vite. Les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey. Les sentiments glacés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite.
À suivre dans Zoom Zoom, un héros masqué devenu un symbole de protestation dans le monde entier, bientôt en série. À la grande déception de Cyril, ce n'est pas Zorro. Et puis, une idée pour le week-end prochain. Et si vous faisiez enterrer dans votre jardin? Convivial, rassurant, Alain Delon l'a fait. Pourquoi pas vous? Quentin vous explique qu'en Bretagne, la sépulture à domicile est très tendance. Mais pour l'heure, on revient à notre sujet fil rouge cet après-midi. Le gang des Amazones. C'est le nouveau film de Mélissa Drigard qui sort demain en salle. Film avec Isia Higelin, qui est notre invitée. Alors, on les a pas cités, les autres membres du gang des Amazones, c'est Lina Koudry, Laura Felpin, Mallory Vanek et Kenza Fortas. Je crois que la réalisatrice n'a pas voulu que vous rencontriez les membres du vrai gang des Amazones avant le début du tournage, c'est ça?
Oui, exactement, on les a rencontrés qu'au bout de 3 semaines de tournage et on tournait dans le tribunal où elles ont été jugées. Donc en fait, elles ont assisté à leur propre procès.
Ah, ça a dû faire
30
drôle.
Ans plus tard, dans le même tribunal, dans la même salle qui n'a pas changé. Et du coup, c'était hyper émouvant et voilà, c'était un moment plein d'émotions. Mais Hélène, j'avais juste entendu sa voix au téléphone, très chantante, ouais, pleine de vie, et je me suis très très vite reconnue en elle. Donc
ça a suffi à alimenter votre préparation de son rôle.
Mais en fait, c'est très étrange parce que on se parle et on a beaucoup 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 de choses en commun, elle et moi. Et elle est trop mignonne parce qu'elle me dit qu'elle est trop contente que ce soit moi qui l'interprète, ouais. et même ses enfants lui disent à quel point il la voit en moi. Et tout ça, donc en fait ça s'est fait juste par aura et par nature et énergie, quoi.
C'est plus difficile d'interpréter quelqu'un qui existe vraiment qu'un personnage fictif. Il y a peut-être plus de pression.
Bah après, ça reste un film, hein, donc c'est une histoire, même si c'est très quand même, c'est très collé au récit des filles, parce que il y a eu beaucoup de discussions avec elle en amont de l'écriture du scénario. Mais ça reste quand même un film. Mais je sais pas, je l'ai senti quand même. Enfin, je l'ai senti malgré moi, Hélène. Il y a eu
un feeling.
Vous avez dit que vous avez entendu sa voix au téléphone d'abord avant de la rencontrer. Est-ce que vous-même vous avez modifié votre voix pour l'interpréter, pour la rendre plus chaude? Vous n'avez pas pris l'accent du sud?
Non, Alors, j'ai pas pris l'accent du Sud parce que, comme chaque acteur sait, c'est très casse-gueule.
Oui. C'est on embrasse Benoît Magimel qui nous écoute souvent. Bisous, Benoît.
François Civil.
Quand tu veux dans Zoom Zoom. François Civil aussi.
Oui, le temps a prouvé que c'était pas forcément souvent la meilleure idée. Mais en tout cas, j'ai mis une petite. Comme je suis musicienne, j'ai mis une petite chanson, une petite mélodie dans ma voix, une petite douceur qui est presque imperceptible, mais moi, en tout cas, je la connaissais. Donc, voilà.
Votre camarade de tournage Kenza Fortas raconte qu'elle a dû faire appel à un coach pour, je la cite, parler comme en 1990. Est-ce que vous aussi vous avez eu besoin de prendre un coach pour parler comme en 90?
Non, j'ai l'impression que ça se rapproche assez.
Ah oui, c'est
comme
c'est
je
ça...
parle. Ouais. Non, mais je sais pas.
Ah, vous êtes une enfant de 1990.
Je suis. Oui, c'est vrai. Oui, je dis que okay. Kenza a 10 ans de moi. À chaque fois, ça m'angoisse.
Je vous le rappelle.
Merci.
Est-ce que justement, ça vous a plu d'habiter ce décor de la fin des années 80 et du début des années 90?
Moi, j'adorais. Je passais un temps fou, j'étais toujours la première sur le plateau et à chaque fois je passais tout mon temps à regarder tous les petits objets. Serge, le chef déco, a fait un travail de dingue avec toute son équipe et toutes les boîtes de Bonux, les petits meubles, tous les trucs, c'était un ravissement dans le magasin, enfin bref, j'adorais.
Autre particularité du tournage, pardon, les scènes en prison sont tournées dans une vraie prison, au Beaumet, à Marseille, et la prison de Tarascon. Ça change, quand on est acteur, ça change quelque chose d'être dans une vraie prison et pas un décor de prison.
Ouais, c'était hyper violent, surtout que moi, comme vous pouvez peut-être vous douter, j'ai un peu de mal avec tout ce qui est enfermement, autorité, tout ça. Et du coup, c'est vrai que de fermer les portes derrière soi, tout ça. Alors après, c'est l'hématone parlait du choc carcéral, alors je pense pas que je l'ai eu comme Sarkozy, mais en tout cas il y a eu quand même un petit moment où j'étais pas bien, quoi. Pas
c'est
bien
troublant,
du tout,
quoi.
C'est très troublant, mais en tout cas j'ai adoré pouvoir parler à ces gardiennes, parce qu'on ne dit plus matone, je me suis fait engueuler là-bas, à ces gardiennes de prison, à la directrice de la prison qui était une femme formidable et voilà, ça c'était des moments aussi qu'on peut que vivre quand on fait des films. J'aurais jamais pu aller en prison, enfin je me le souhaite en tout cas jusque-là. J'ai failli une fois, mais bon, non.
Comment ça vous avez failli?
Oula, anecdote.
Non,
il y a juste eu une petite enquête ouverte contre moi pour. Enfin, truc Macron, là, tout ça, là, vous rappelez, là, la pirata, machin.
Oui, bien sûr. Sur scène?
Ah, alors dans le concert.
Ah, mais oui,
Bien sûr.
J'étais dans le bandeau BFM, quoi.
Ouais, merci,
on a une bandit avec nous, une bandit. Un blouson noir.
Oh mon Dieu. Vous écoutez France Inter, il est 17h26. Justement, il a fêté la libération de Nicolas Sarkozy en se faisant tatouer les mots que l'ex-président a eus à sa sortie de prison. La vérité triomphera. Tatouage qui a pris un peu de temps car le tatoueur avait d'abord écrit triomphera avec un F, ce qui évidemment n'était pas raccord avec l'amour et le respect bien que sûr. Nicolas Sarkozy a bien toujours eu pour la langue française.
Qu'est-ce que je m'aperçois,
Cyril? Ce que je m'aperçois, c'est qu'on parle, on parle, mais c'est déjà l'heure du Dakar News.
C'est un village, mon vieux.
Les trois infos qu'il ne fallait pas manquer en ce mardi 11 novembre, et on démarre avec le héros du jour.
Pour vous le présenter, l'extrait d'un monologue.
Voilà ! Vois en moi l'image d'un humble vétéran de votre ville, distribué vicieusement dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes de la vie. Un seul verdict, la vengeance, une vendetta telle une offrande votive, mais pas en vain, car sa valeur et sa véracité viendront un jour faire valoir le vigilant et le vertueux. Appelle-moi V.
L'incroyable allitération de V pour Vendetta, elle est beaucoup plus longue dans le film. C'était une bande dessinée à l'origine de Alan Moore et David Lloyd. C'était un film écrit par les sœurs Wachowski avec Nathalie Portman. Ça sera bientôt une série pour HBO. La chaîne a annoncé qu'elle lançait une adaptation de ce héros révolutionnaire qui se cache derrière le masque de Guy Fawkes. Masque devenu un symbole de protestation. Au passage, je vous glisse que le film ressortira l'année prochaine pour fêter ses 20 ans déjà, comme une preuve que ce mystérieux V, opposant d'un système liberticide, est plus que jamais d'actualité.
Encore une info exclusive du Lacar News.
C'est dans Variety.
Il faut bluffer, Cyril. La DER du jour.
CR7 ira aux États-Unis, au Canada et au Mexique et ce sera terminé. Ce n'est pas le planning du prochain road trip de Cristiano Ronaldo, juste l'information que le footballeur participera l'été prochain à sa toute dernière Coupe du Monde.
C'est fou, il va avoir quel âge ?
41 ans. L'année prochaine, Coupe du Monde qui se déroulera dans ces trois pays. Ronaldo l'a annoncé aujourd'hui. Encore faut-il que le Portugal se qualifie, il faudra battre l'Irlande après-demain pour empocher son billet. L'an prochain, donc Cristiano Ronaldo aura 41 ans et un palmarès XXL. 5 Ligues des Champions, 4 Coupes Intercontinentales, 7 Championnats Nationaux, 1 Championnat d'Europe avec le Portugal. On se souvient, c'était ici en France en 2016. Et 5 Ballons d'Or. Ronaldo est probablement un des plus grands joueurs de l'histoire du foot. Il ne lui manque qu'une Coupe du Monde.
Et alors que Franck Leboeuf, lui, a la Coupe du Monde. On termine avec l'immortel du jour, Cyril.
Connaissez-vous Juan Gabriel? Juan Gabriel, non. C'est un chanteur mexicain, écoutez-le.
Allez, une double qualité pour la Marianoche.
Bien d'écouter ça au Mexique.
Juan Gabriel, plus de 7 millions d'abonnés à sa chaîne YouTube, une icône de la musique mexicaine. Pour vous donner une idée de la dimension du bonhomme, le New York Times compare sa notoriété à celle de Bad Bunny aujourd'hui, ouais. Donc une grosse rosta. Juan Gabriel est mort, et pas hier, il est mort il y a presque 10 ans, en 2016. Alors pourquoi je vous en parle ?
Oui.
Eh bien,
Cyril,
c'est
là,
la question.
Là, effectivement, là, tout le monde se regarde dans le studio, c'est gênant.
Eh bien, parce que sa popularité est quasiment intacte. Samedi, il y avait 170 000 personnes sur la place centrale de Mexico pour assister à un concert de Juan Gabriel enregistré en 1990. Ah, vous ouais. imaginez, 170 000 personnes, et des artistes vivants qui ne se produiront jamais devant une telle foule, ses fans étaient venus applaudir celui qu'ils surnomment encore aujourd'hui la diva de Juarez, un personnage hors norme, jamais marié, mais quand même 6 enfants, dont 4 sont aussi appelés Juan, mais dans d'autres langues, une vraie diva qui méritait bien les honneurs du Lacarnio.
La diva de Juarez, c'est aussi le surnom de Manon depuis qu'elle est rentrée du Mexique
évidemment.
L'été dernier.
Je suis passée par Juarez, évidemment.
C'était la mule de Juarez. Ouais.
J'aime le dépaysement et le Mexique, mais maintenant, retournons en France avec ce bon vieux Quentin Lui, direction la Bretagne.
Dans les Côtes d'Armor, à Ilion, pour être précis, du côté de Saint-Brieuc, Mathieu, où l'on peut lire sur place le journal hebdomadaire local La Pentièvre, qui titre cette semaine « Christian est enterré dans son jardin ». Et j'avoue que ma curiosité fut piquée. On voit sur la une une petite sépulture isolée, une croix en granit d'environ 50 cm, au milieu d'un jardin qui donne sur un champ tout vert, sans doute bien arrosé par la météo bretonne. Sur cette une, on voit également Anne-Charlotte, la femme de Christian, qui raconte son histoire. Et quelle histoire ? Son Christian, travailleur acharné, qui a à la fois été parachutiste, imprimeur, et leur histoire d'amour de 30 ans, 3 enfants et un mariage, finalement célébré en 2023 sur le tard. Et hélas, un an plus tard, Christian est emporté par un cancer foudroyant. Anne-Charlotte avait juste eu le temps de lui dire qu'elle comptait le garder à jamais près d'elle, à l'hôpital, et de l'enterrer dans le jardin. Elle en parle à ses fils, sans savoir si tout ça est possible, même si elle se souvient très bien avoir lu dans la presse que Sacha Distel, Valérie Giscard d'Estaing, ou encore plus récemment Alain Delon, avaient obtenu ce privilège. Mais alors, pour un Français lambda, qu'est-ce que ça dit ?
Mais alors, Quentin, la réponse ?
Eh bien, moins d'une semaine après sa disparition, Christian rejoignait sa dernière demeure, qui était en fait déjà la sienne auparavant.
Il est mort. C'est quand même...
L'inhumation sur un terrain privé, c'est très encadré. Déjà, elle concerne les lieux uniquement hors zone urbaine, donc il faut que ce soit à la campagne. Et ça nécessite 3 autres conditions, une autorisation préfectorale, un examen de l'impact environnemental et l'invite d'un médecin et des services d'hygiène. Chose à savoir en plus, les sépultures sont inaliénables et incessibles. Donc si un jour, quelqu'un rachète votre propriété, le nouvel acquéreur devra vous laisser un accès à la tombe.
Quoi ?
Et il ne pourra ni la détruire...
À vos descendants.
À la personne enterrée.
Oui, bien sûr.
Mais aux descendants, un accès à la tombe, pour pouvoir se recueillir, il ne pourra ni détruire, ni déplacer la sépulture. Je voulais vous partager cette histoire qui, pour moi, raconte quelque chose d'autre. Elle raconte la place de plus en plus importante qu'occupent nos morts aujourd'hui. Les cimetières s'étendent, les concessions se prolongent, on parle de perpétuité, et désormais, les jardins deviennent aussi des lieux de mémoire. Alors, on peut s'interroger, la question n'est plus seulement celle du souvenir, mais aussi de la place. Combien d'espace sommes-nous prêts à laisser à nos morts, Mathieu ?
Ben merci Quentin. C'est intéressant parce que moi j'aimerais bien être enterré sur mon terrain en Corse. Je savais pas que c'était possible. Il y a un caveau, mais je pensais qu'on avait plus le droit de se mettre dans le caveau.
Ben vous avez les 3
conditions. Ça n'a rien à voir.
J'ai demandé une dérogation.
Ça n'a rien à voir le caveau et le fait de pouvoir se faire enterrer dans son jardin.
Ah, ça n'a rien à voir.
Non. Alors, on pourrait imaginer un cimetière zoom zoom zen dans votre demeure de Normandie.
On vous viendrait tous avec moi dans le cimetière
en Normandie tous ensemble.
Est-ce qu'on a envie d'être enterré ensemble ? Je suis pas sûr les gars.
Dans l'éternité, c'est vous.
Bon, écoutez, on en discutera en antenne. Les auditeurs peuvent voter sur Instagram.
Vous allez faire un sondage, Mathieu ?
Ça n'a aucun sens. À suivre, c'est une bien triste information sur laquelle revient Marie De Breuer. Bonjour Marie.
Bonjour. Vague de boycott du festival de la BD d'Angoulême. Oui, je sais, vous êtes très déçus, hein, vous qui adorez la BD et Angoulême. Je vous raconte tout ça dans ma chronique.
La chronique de Marie De Breuer, c'est juste après Sam Sauvage, La fin du monde sur France Inter.
Saoulé dans le pub, on sera des héros. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai juste un peu peur du noir. Le monde s'écroule sous nos pieds, ça nous empêche pas de danser. Demain j'y crois encore, demain j'y crois encore. Et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde. C'est la fin du monde, c'est pas moi qui le dis. À nous les tragédies, t'entends cette mélodie. Regarde devant, au-dessus des incendies, le ciel qui nous sourit. Et tous ensemble on crie. Et là dans le club, on rêve d'un monde nouveau. Saoulés dans le pub, on sera des héros. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai juste un peu peur du noir. Le monde s'écroule sous nos pieds, ça nous empêche pas de danser. Demain j'y crois encore, demain j'y crois encore. Et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde. Et là dans le club, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et bien que ce soit la fin du monde, j'entends le vent du nouveau monde souffler avec moi pour la fin du monde. La fin du monde. Ça nous empêche pas de danser. Demain j'y crois encore, demain j'y crois encore. Et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël sur France Inter.
À suivre dans Zoom Zoom Zen, elle est la nouvelle First Lady de New York. Rencontre avec Rama Douaji, la femme de Zoran Mamdani qui enflamme les réseaux sociaux. À part Cyril qui, je le cite, ne suivra jamais la femme d'un communiste. Oh. Elle suscite un engouement étonnant. Manon nous explique pourquoi dans sa veille sanitaire. Mais pour l'heure, je me tourne vers vous, Marie Debreur. Aujourd'hui, vous nous parlez BD. Marie, avec un appel au boycott du plus célèbre festival de France.
Ouais. Faut boycotter le festival de la BD d'Angoulême. Alors, c'est qui a fourré son crayon de papier n'importe où encore. Hein. On ne sait pas garder son crayon dans sa trousse. On se fait tailler le crayon par tous les tailles crayons. Oui, bon, on a compris. Si j'ai bien saisi, il y a plusieurs problèmes avec le festoche, notamment avec la direction. Le directeur du festival de la BD est accusé de management toxique. Apparemment, il était là. Tu tailles ton crayon, je t'ai dit. Oh. Tu tailles ton crayon. Tu crois que Tatin, il est devenu qui? Il est devenu avec ce crayon mal taillé. Mais moi, je boycotte. Bien sûr, hein, j'irai pas à Angoulême cette année. Ça n'a rien à voir avec des histoires d'emploi du temps qui ne matchaient pas. Non, je boycotte en fait, en soutien aux artistes, aux illustrateurs, aux BDistes. Et s'il n'y a plus de gens qui bossent dans la BD, qui, je vous le demande, qui va dessiner des femmes avec de gigantesques nichons, hein? Alors, on se pose la question. J'ai écrit deux BD, moi, Ne jamais couler et une BD qui parle de cul, 19,90€ chez tous vos bons libraires.
On saura.
Et oui, il y a des dessins de femmes avec de gigantesques nichons. J'étais obligée, c'est apparemment le seul argument de vente pour les amateurs de BD, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai déjà été, moi, en festival de BD. Bon, je suis pas fan de l'ambiance, j'avoue, hein, globalement, c'est des dizaines de gens qui ont un immense boulard, que bon, quand tes outils de travail, c'est les mêmes que ceux d'un enfant qui est en primaire, bah, te la raconte pas trop, quoi. On est loin du festival de Cannes, vu qu'on est dans un hangar préfabriqué à Montaigu. Il s'agirait de redescendre. Et non, Jocelyne, non, ce roman graphique sur l'éducation positive ne va pas révolutionner la parentalité. Range tes crayons dans ta trousse, Jocelyne. L'économie du festival d'Angoulême repose sur des gens qui payent pour se faire dédicacer des BD. Les dédicaces, c'est des files d'attente de gens mal à l'aise avec les cheveux gras. Je comprends, je serais mal à l'aise, moi aussi, si j'avais un excès de sébum. Peut-être essayer les œufs. Je crois que les œufs, ça régule le cuir chevelu. Tu sens sandwich pain brioché qu'on bouffe sur une aire d'autoroute, mais ça régule, quoi, voilà. De l'autre côté du festival, il y a des auteurs lecteurs qui viennent gratos hein, dédicacer leur BD pour gagner 5% du prix de la BD dans un an. Donc sur une BD à 19,90€, ça fait 99 centimes. Bah moi pour 99 centimes sur ta dédicace, t'as le droit à un trait. Voilà. Mais tu pourras dire c'est Marie de Brouwer qui a fait le trait. Je l'ai vu en vrai et tout. Par contre, ces nichons sont pas aussi gigantesques que sur les dessins. J'ai une option peut-être pour les déçus du festival de la BD d'Angoulême. C'est l'exposition de peinture L'écho des sept âmes créatives au carré à la farine à côté du marché de Versailles. Et là, vous vous dites mais qu'est-ce que ça vient foutre dans la chronique ?
C'est ce qu'on se dit, oui.
Et bah oui, bah pour tout vous avouer, une des sept âmes créatives, c'est ma mère. Voilà. C'est Alice. Alice, la dame qui a accouché de moi il y a 30 ans et qui trouve ça ok de porter des lunettes en forme d'octogone. Et bah la semaine dernière, elle m'a invitée à bouffer. Je me dis sympa, ça fait deux mois qu'elle se dort la pilule à Essaouira. Elle veut voir sa fille, quoi. C'est cool. Et bah non, en fait, elle voulait que je fasse de la pub pour son expo de peinture, tout ça contre un fish and chips. Ma mère veut voler mon buzz, en fait. Voilà, c'est ça que j'essaie de vous dire. Je vous jure, la retraite à 60 ans, oui, mais ça crée des monstres. Hein. Des monstres qui font de l'aquarelle toute la journée. Avec ma mère, c'est pas de management toxique, mais de l'éducation toxique. Hein. Elle m'a pris par le callback comme ça, elle m'a menacé avec un pinceau d'acrylique. Puis elle m'a rappelé cette histoire d'avant sur héritage. Du coup, bah, je parle de ces petites peintures, quoi. Et finalement, entre la peinture et la BD, bah, il n'y a qu'un pas. Tu remplaces le crayon par un pinceau. Après, de là, faire des blagues sur ma mère qui fourre son pinceau partout.
Non.
Je suis pas sûre. Je vais m'arrêter là. Oui,
merci Marie. En effet, mieux vaut s'arrêter avant que votre maman, qu'on embrasse, ne commence à fourrer son pinceau tout partout. Et du 8e art, on repasse au 7e. Ça va très vite. Izia Higelin est avec nous pour le Gang des Amazones qui sort demain en salle. C'est basé, on l'a dit, sur une histoire vraie. Izia, comment cinq femmes décident de braquer une banque? C'est une histoire d'amitié. Est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire de sororité, comme on dit beaucoup aujourd'hui?
Je ne sais pas si la sororité était un luxe qu'on pouvait se permettre à l'époque. C'est un peu ce que je me dis. En fait, c'était cinq nanas, mères au foyer, ou alors voilà, des femmes isolées, parce que les femmes étaient quand même vachement plus isolées. Donc, je crois même que l'esprit de sororité n'était pas vraiment au menu. Quoi.
Sans dévoiler ce qui se passe dans le film, comment elles s'y prennent? Parce que braquer une banque, ça ne s'invente pas. Elles font quoi? Elles lisent des livres, elles regardent des films? Comment ça se passe?
Il y en a une qui a un peu plus le pied à l'étrier que les autres, Cathy, et elle dit qu'elle a déjà pensé à braquer le Crédit Agricole, mais en fait, c'est aussi ça qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, elle braque que des banques autour de chez elle, elle braque même leur propre banque. Donc, elle se déguise en femme avec des perruques, avec des costumes et tout ça. Mais du coup, c'est pour ça que si ça avait été quand même un peu plus préparé, elle serait au moins allée dans un autre département ou quelque chose.
C'était semi-professionnel.
Mais oui, mais parce que le personnage de Cathy dont vous parlez dit dans le film, depuis quand les meufs ça braque des banques? Ouais. Sous-entend en fait que personne ne pouvait soupçonner parce que c'était des meufs.
Exactement, mais d'ailleurs elles font un premier braquage, elles sont en kaki, tu sais, à cagoule, et les gens pensent que c'est des hommes. Mais oui, à l'époque, les femmes ne pouvaient même pas faire un braquage. Vous rendez compte les progrès qu'on a fait?
C'est dingue. Au total, elles vont braquer 6 banques et une agence d'intérim. Au total, ce sont près de 300 000 francs à l'époque de butin, une somme dont elles vont servir pour quoi faire?
Pour vivre, en fait. Pour vivre, elles se font aussi kiffer. Hein. Elles achètent des jouets pour leurs enfants. Je crois qu'elles se font des sorties, des choses comme ça, mais elles y prennent goût aussi rapidement, et c'était dur pour elles d'arrêter, mais honnêtement, je suis pas sûre qu'elles aient fait non plus des dingueries, quoi.
Ouais. Et cette dimension, en fait, elles faisaient des braquages pour simplement subvenir à leurs besoins et les besoins de leurs enfants. Elle est pas présente à l'époque dans la presse. Alors on le voit dans le film, les enquêteurs pensent d'abord, dans un premier temps, avoir affaire à des hommes. Ils peuvent même pas imaginer que c'est des femmes. Et puis quand on découvre que ce sont des femmes, c'est la presse qui s'en donne à cœur joie avec des titres assez misogynes. Quand les ménagères se transforment en mégères, elles ont troqué leurs baguettes de pain contre des fusils à canon scié. Ça parle aussi de misogynie, ce film.
Oui, oui, complètement. C'est l'époque. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pour eux, pour les gens, c'était impensable que des femmes puissent faire ça.
Et une circonstance aggravante d'être femme et braqueuse.
Oui, oui, mais au procès, elles s'en servent aussi en disant que voilà, c'est que l'avocat met dans la bouche des jeunes que c'est une mère courage qui a fait ça pour défendre ses enfants. Elles exagèrent le trait, mais à la base, c'est quand même un peu ça. Donc.
On parlait de cette somme, 300 000 francs de butin. Il y a cette scène dans un restaurant de luxe où votre personnage paye l'addition à son père à qui elle ne parlait plus pour lui montrer que maintenant, elle peut se le permettre. À ce moment-là, est-ce qu'elle voit plus leur braquage comme une espèce de revanche sociale aussi ?
Bah, j'imagine. Hein. Enfin, ouais. C'était ça, de pouvoir sortir de leur trou et de pouvoir souffler, vivre, ouais. Subvenir... Je sais pas quoi dire de plus, honnêtement. C'est vrai qu'elle est très forte, cette scène.
Il faut parler d'un personnage majeur de cette histoire. Encore une fois, sans trop en dire pour les spectateurs, c'est la juge Savoy. C'est sûrement elle qui va faire basculer le destin de ces femmes. On va pas dire comment le film se termine, même si c'est une histoire vraie.
Vous pouvez aller sur Wikipédia.
N'allez surtout pas sur Wikipédia, il faut jamais faire ça quand on regarde un film basé sur une histoire vraie, c'est complètement con. Mais cette juge, on va dire, elle va venir en aide à ces braqueuses, d'une certaine manière.
Ouais, mais après, ce qui est drôle, c'est que la juge Sabeuil, elle était surnommée la gaucho, par ses collègues et tout ça. Et du coup, c'est vrai que cette histoire, à l'époque, elle a vachement touché. Donc, il y a eu une erreur. Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que c'est pas une erreur ? On ne saura jamais.
Et j'ai retrouvé une interview de vous dans Totemic en 2023, excellente émission. Vous disiez, Isia Higelin, je pense que dans le cinéma, il faut être plus stratège que dans la musique. Je suis plus libre dans la musique. Le cinéma est un milieu très hiérarchisé. Dans la musique, c'est pas du tout comme ça. Mon père me l'avait dit, il avait commencé au cinéma. Et quand il a découvert la musique, il a plus voulu retourner dans le cinéma car il avait gagné une certaine liberté dans la musique. Est-ce que vous avez changé d'avis ou vous êtes juste monté dans la hiérarchie du cinéma qui fait que maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez aussi dans le cinéma ?
Non, pas du tout. Non, c'est vrai qu'il y a... En tout cas, le métier d'actrice, même si je le trouve formidable et tellement riche, est quand même assez délimité. Et c'est vrai que c'est un milieu très très hiérarchisé où il faut faire preuve de stratégie, un peu de manipulation, tout ça, pour un peu s'en sortir d'une certaine manière. Et c'est vrai, quand t'es un peu franc du collier, ça peut parfois te jouer des tours. Et c'est vrai que dans la musique, j'aime être franche du collier.
Votre dernier album date de 2022. Est-ce qu'il y a un projet qui est sur le feu ? Tout à fait.
Je suis sur mon prochain album. Bonjour. Tranquillement. Et là, je repars en studio samedi. Et j'espère qu'il sera prêt rapidement.
Et est-ce qu'en anglais, vous avez progressé depuis Let Me Alone ?
Alors, je vous emmerde déjà.
On en blaguait hors antenne, Isia.
Non, je sais, mais je
c'est
blague
en disant
ça.
C'est vous-même qui m'avez souligné cette erreur.
Je sais, mais j'adore. Mais en même temps, je le dis en concert, juste avant de la chanter. Parce que, en même temps, c'est vrai qu'on dit Leave Me Alone et non Let Me Alone.
Oui, mais c'est la licence poétique.
En même temps, c'est mon petit style. Et je me raccroche.
On s'en rappelle.
Me raccroche au fait qu'il paraît que dans la langue anglaise du temps de Shakespeare, certains pouvaient dire Let Me Alone. Donc, en fait, c'est ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire, j'étais sur Shakespeare. Expire.
Plus bilingue que nous, effectivement. Vous écoutez France Inter, il est 17h46. L'heure d'aller voir ce qui se passe dans les dédales du World Wide Web. Manon, aujourd'hui, vous nous parlez d'une nouvelle hit girl qui affole les réseaux sociaux.
Elle s'appelle Rama Douaji. Elle a 28 ans, elle est new-yorkaise et c'est l'une des artistes les plus en vogue du moment. Ses illustrations ont été publiées dans des magazines prestigieux comme le New Yorker ou le New York Times. Elle a aussi exposé à la Tate Modern à Londres, l'un des musées d'art contemporain le plus connu au monde. Mais dernièrement, ce n'est pas pour son travail qu'elle fait parler d'elle, mais pour son mari.
CNN projects the Democratic Socialist Zohran Mamdani will be elected the next mayor of New York.
Rama Douaji est la femme du nouveau maire de New York, Noran Mamdani, et évidemment, en bonne société patriarcale que l'on est, les femmes d'eux et surtout les first ladies sont toujours passées au crible des médias et des réseaux sociaux. Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Pourquoi elle ? Etc. etc. Rama Douaji s'était pourtant faite assez discrète pendant la campagne de son mari, pas d'apparition publique, aucune interview. Mamdani ne l'a pas utilisée comme un outil de campagne, comme ça se fait beaucoup, notamment aux États-Unis. On se souvient de l'autobiographie de Melania Trump sortie au moment de la deuxième campagne de son mari. Mais le soir de sa victoire, Zohran Mamdani est venu accompagné de son épouse Rama Douaji. Elle était à ses côtés pendant son discours et elle lui a presque volé la vedette.
Alors pourquoi ça, Manon ?
Pour les soutiens de Mamdani, Rama Douaji est une réincarnation moderne de Lady Diana. Car elle est avant tout une femme engagée, fille de parents musulmans syriens originaires de Damas. Elle Elle utilise son travail pour parler de la situation en Palestine. Elle parle aussi du droit des femmes et de la justice sociale au Moyen-Orient. Et dernièrement, elle a aussi fait des illustrations pour dénoncer la guerre au Soudan. Et puis, Ramadou Ouaji est l'une des premières First Lady à être issue de la Gen Z. Elle est née en 1997.
Oh là là, c'est donc ça devrait être interdit.
C'est donc c'est une femme connectée à son temps. Elle a 1,2 million d'abonnés sur Instagram. Elle a rencontré Zoran Mamdani sur l'application Inge, et oui. Et elle aborde un look très Y2K années 2000 que les jeunes adorent sur TikTok.
For decades, political spouses wore uniforms. The message, blend in, shut up, support.
Pendant des années, les premières dames portaient des uniformes, des tenues sobres pour se fondre dans la masse, se taire et soutenir leur mari. Parce que, plus que des habits, les tenues de Ramadou Ouaji sont aussi un symbole d'empowerment féministe. C'est vrai qu'avec ses traits de eyeliner, ses hauts en dentelle qui laissent voir son soutien-gorge, ses tops asymétriques, on est loin des tailleurs de Melania Trump, aussi classe soit-il. Et puis, ses photos de mariage avec Zoran Mamdani ont aussi fait le tour des réseaux. On voit les deux qui se rendent à leur union en métro. Alors, rien d'extraordinaire en soi, mais c'est une façon de montrer qu'ils sont proches des gens, comme de vrais New-Yorkais. Et c'est cette proximité qui a contribué à l'élection de Zoran Mamdani.
Donc en gros, elle fait l'unanimité, Manon ?
Alors non, étonnant, mais elle n'est pas du tout la nouvelle icône des Républicains. Sur X, où ils sont le plus actifs, Ramadou Ouaji se fait critiquer, voire harceler par certains Trumpistes qui voient en elle une menace. Elle se fait traiter d'influenceuse palestinienne. Certains demandent à ce qu'elle se fasse arrêter par la ICE. Où est passé son hijab ? D'autres sous-entendent que c'est un homme, en critiquant son physique, la même méthode employée pour dénigrer Brigitte Macron. Mmh. Zoran Mamdani avait déjà répondu à ces attaques en mai dernier sur Instagram en disant que des trolls d'extrême droite essayaient de transformer cette élection en une attaque contre elle. Vous pouvez critiquer mes opinions, mais pas ma famille. Face à la droite dure qui a pris possession du pays, Zoran Mamdani et Ramadou Ouaji font figure de nouveaux power couple de gauche qui ne se laissent pas intimider.
Merci beaucoup Manon Izia-Higelin. Alors là, on parle d'un maire socialiste à New York. Ça change un petit peu de ce qui se passe d'habitude aux États-Unis. On a parlé de la ICE, de la traque des migrants illégaux. C'est quelque chose qui vous inquiète ou vous regardez la politique américaine ou vous essayez de vous tenir éloigné de tout ça?
Bah non, mais là, oui, bien sûr. Non, mais tout. Écoutez, nous sommes inquiets, on va pas se mentir. Hein, c'est inquiétant tout ça, globalement. Donc, moi, j'essaie de me protéger un petit peu parce que j'étais quand même à fond un moment à regarder. Je pense qu'il faut se protéger quand même un peu parce que c'est on peut vite tomber dans un truc très très noir. Moi j'ai un petit garçon à élever dans l'amour et dans les belles choses qui est dans le studio avec moi là aujourd'hui. Ouais, il est quelque part par là.
Il est quelque part par là.
Et voilà, donc j'essaie de lui transmettre quand même des belles énergies, et donc de me protéger de tout ça.
Et donc en étant BFM TV, les
en ce moment, je suis plutôt là-dessus.
Comme votre personnage Izia, elle aussi, elle vient du Sud, elle aussi est un peu borderline. Bonjour Marion Mézadorian.
Bonjour.
Marion, aujourd'hui vous allez nous raconter votre lien avec le gang des Amazones.
Oui, c'est vrai que quand j'ai fait mon arbre généalogique, je vous cache pas que j'ai eu un petit frisson quand même.
Mon Dieu, la chronique de Marion Mézadorian, c'est juste après le nouveau Rosalia. Tiens, la Perla sur France Inter.
Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas de amor.
Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes la...
Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Et pour conclure cette émission sur le gang des Amazones qui débarque demain au cinéma avec notre invité Izzy Aigelin, on écoute maintenant Marion Mésadorian. Marion, vous étiez toute petite, vous, quand le gang des Amazones a frappé.
Oui, moi j'ai grandi dans un petit village près d'Avignon, dans les années 90, avec un père maraîcher, avec l'accent du sud qui boit son pastaga. J'avais des cousines et des tantes assez sanguines, qui cumulaient 12 jobs avec 15 gosses. Donc quand j'apprends que le gang des Amazones, c'est des mères de famille qui braquent des banques près d'Avignon, elles sont aidées d'un maraîcher qui parle comme dans les virages nord de Marseille, et en plus elles trinquent tout au pastaga, à un moment donné, je me suis demandé si c'était pas Tati qui avait fait le coup. Hein. Parce que des femmes qui boivent du pastaga, croyez-moi, c'est pas courant. Hein. Comme dirait mon père, fais-en boire un parigo, il va te le noyer jusqu'à ce que ça devienne de la cristalline. Hein. Je me rappelle encore de ce jour où mon père ouvre le journal après sa journée du marché. Braquage. Oh con, c'est des gonzesses en plus. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde, nous, à vendre trois courgettes, on est des branquignoles, hein. Et ma mamie qui lui claque le front par l'arrière, parle mieux, toi, ou je t'en colle une deuxième. Dit-elle en buvant son pastaga. Dans le vrai gang des Amazones, Izzy Aigelin, vous connaissez ce personnage, il y a une braqueuse qui raconte « J'ai jeté tous les billets sur le lit en criant « on est riche, je vais pouvoir amener les petits chez Auchan ». Mon père a vu l'interview, il a jeté tous ses billets du marché en l'air et il m'a dit « Papa, elle est pas riche, papa ? Écoute-moi bien, nous on va à la French. C'est encore plus mieux qu'Auchan ». Et il a rajouté « Et papa, il a braqué personne, hein ?» À part les petites mamies, des fois c'est vrai, j'arrondis à la dizaine. Supérieur. Attends, mais j'offre toujours un bouquet de persil. Je m'as pris pour un voyou, quoi. Et le pire, c'est que ces cinq femmes ne sont même pas des voyous. Si on leur avait pas sucré les APL, pas sûr qu'elles auraient enfilé une cagoule. En fait, vous savez quoi ? Les deux gars qui ont braqué le Louvre il y a 15 jours, à mon avis, ils arrivaient juste pas à rembourser la CAF. Hein. C'est pas des ninjas du futur, c'est juste ton oncle et ton voisin qui sont au bout du roule. Apparemment, un des deux voleurs sur TikTok, il s'appelle Doudou Crossbitume. Effectivement, on sent que c'est pas un ninja. Il a beau avoir chopé 80 millions avec une échelle d'éclairagiste, quelque chose me dit qu'on va vite le retrouver. Et les femmes, ces femmes-là, ces cinq femmes, et pareil, elles sont pas criminelles. Elles sont mères solo avec des enfants à bas âge. Franchement, faut être organisé. Parce qu'il faut les faire garder les gosses. Hein. Putain, même pour un braquage, on a de la charge mentale. Je sais pas vous, hein, mais moi, j'ai encore jamais entendu dans un film. Désolé Billy, j'ai une galère de nounou. Mais là, t'inquiète, j'en ai trouvé une super sur Nounou Top. Crois-moi bien, je la bloque en CD avec Prime de Noël et Tutti Quanti. Voilà, ça, on l'a jamais entendu, hein, parce que Billy Boobies, ils n'avaient pas à le dire dans les dialogues. Ben non, ils n'avaient pas à le faire dans la vraie vie. Et pour ceux qui disent que c'était de l'argent facile, faut se rappeler qu'elle faisait 40 kilos tout mouillé, les Amazones. À mon avis, ton poignet tremble un peu quand tu dis « Mettez tout dans le sac hein, !» Ou « Je dégaine mon fusil qui n'a pas de munitions !» Elle n'avait pas de munitions. Là, tu pries pour que le banquier soit pas prof de tai chi. Hein. Oui, elles ont eu beau fumer toute la nuit avant le braquage pour avoir des voix d'homme, c'est pas avec la fréquence de Jeanne Moreau que tu te défais d'une clé de bras. Alors si certaines et certains se demandent encore comment on bascule dans la délinquance, je dirais par colère et instinct de survie. Et là, j'entends déjà mon père me dire « Parce que tu crois que je suis pas en colère et en survie, moi ?» Et là, ma mère répondrait « Oui, mais toi, tu n'avais pas les gosses à gérer. Donc, s'il y en a une qui doit répondre, c'est moi. Hein, allez, cours avant que je t'en claque une oreille. »
Merci beaucoup, mes adorés. On s'y croyait vraiment. On vous retrouve très bientôt dans Zoom Zoom Zen. Ça a beaucoup plu à Isia Higelin. Merci, Isia, d'être passée nous voir. Je rappelle qu'on vous retrouve donc demain en salle dans Le Gang des Amazones, un film signé Mélissa Drigard. Merci d'avoir été avec nous.
Allez le voir. Merci beaucoup.
Merci à vous, Isia. Merci à tous les amis Manon, Quentin, Cyril. Merci à tous ceux qui nous aident à préparer cette émission. Claire-Sophie Collet, Florence Gimalac, Pierre Courade, Pénélope de la Péchardière, Jade Bellag et Gérald Darnaud. À la réalisation, c'était Étienne Bertin. À la technique, Jérôme Ragano. Demain, on se retrouve dès 16h évidemment pour zoomer sur un phénomène insensé, le teensplaining. Quand les ados se permettent de donner des leçons de vie à leurs parents alors qu'ils ont encore une ébauche de duvet à la place de la barbe, comme Quentin. Face aux dernières provocations de la Gen Z, je ne vous promets pas de garder mon calme, mais je vous promets d'essayer. Zoom Zoom Zen.